Valeur HI 203 et 209, histoire médiévale. Huitième cassette, première phase présentée par Monsieur Neveu.
Les nouvelles invasions, c'est-à-dire les invasions des 9e et 10e siècles. Nous allons subdiviser cette séance en deux parties. D'abord, un exposé d'introduction, ensuite, une explication des documents. À partir du 9e siècle, la décadence carolingienne va être aggravée par une série d'agressions extérieures. C'est une nouvelle période de crise comparable à celle du 5e siècle. Pour cette période, nous avons surtout des textes, peu de recherches archéologiques. Or, ces textes sont rédigés par des clercs et ils nous présentent essentiellement le point de vue des victimes. Trois peuples sont en question, d'abord les Scandinaves, appelés Vikings, ensuite les musulmans, appelés également Sarrasins, enfin les Hongrois. Premièrement, les Vikings. Ce mot viking vient de l'ancien norrois vik, qui signifie baie. Il s'agit évidemment de pirates. Et ces gens viennent en Occident grâce à leurs navires, des navires qui sont les plus perfectionnés que l'on fabrique à cette époque. On a beaucoup discuté de la façon dont il fallait dénommer ces navires. Le mot traditionnel « drakkar » n'est pas correct puisque c'est le pluriel de « dreki » qui signifie « des dragons ». Il s'agit en fait des figures de proue qui ornaient l'avant et souvent l'arrière de ces navires. Il vaut mieux pour les désigner employer d'autres termes, par exemple celui de Knorr ou celui de Snekia, qui a donné en français médiéval Esnek, ou encore le terme de Langskip, navire long, qui désigne plus précisément les navires de guerre. On emploie essentiellement le mot viking pour l'Occident. Car vous avez également les varegs, qui sont des soldats, aventuriers, marchands, mais ce terme est mieux appliqué aux expéditions orientales à travers les plaines russes. Les vikings ont affecté toutes les côtes occidentales et même celles de la Méditerranée. Leur action la plus forte a été notée dans les Pays-Bas, en France, en Angleterre. Leur action est plus épisodique en Allemagne et en Italie. On peut distinguer plusieurs périodes. D'abord, celle des raids isolés entre 790 et 840, puis ensuite, celle dite des grandes invasions entre 840 et 911. Au départ, il s'agit d'expéditions saisonnières et avant l'hiver, les Scandinaves retournaient chez eux. Mais peu à peu, ils se décident à hiverner sur place, en particulier dans l'estuaire des grands fleuves comme la Seine ou la Loire. En ce qui concerne la Seine, une grande armée y séjourna de 856 à 862. Les Vikings sont bien entendu des pirates et ils progressent par les rivières et par les fleuves. Petit à petit, leur rayon d'action s'élargit d'expédition en expédition. Leur but principal est toujours de trouver du butin. Leurs moyens de dévastation sont considérables. Elles sont illimitées en ce qui concerne les campagnes, où ils pratiquent une véritable guerre psychologique. En revanche, ils sont très démunis devant les villes, car les se défendent grâce à leurs murailles reconstruites. En fait, les villes ne peuvent pas toujours tenir car elles deviennent rapidement indéfendables à cause de l'afflux des réfugiés. Au bout de 20 ou 30 ans, les Vikings se décideront d'ailleurs à attendre et à faire le siège des villes en utilisant des véritables machines de siège. Malgré tout, les villes restent le dernier rempart contre les invasions. À propos des Vikings, vous devez consulter les cartes que j'ai mises à votre disposition, notamment celle de l'expansion scandinave et celle des invasions du Xe siècle. Je passe maintenant au deuxième envahisseur, c'est-à-dire les Sarrasins. Les Sarrasins sont d'abord des pirates, tout comme les Vikings. Ils opèrent par la mer, à partir de l'Espagne ou de la Sicile. Mais il y a un autre aspect à leur invasion. Ce sont également des coureurs de montagne qui ont utilisé les Alpes ou les Apennins comme axe de pénétration. Par exemple, à partir de la côte varoise, ils sont remontés jusqu'à Saint-Gall, dans la Suisse actuelle. On peut se demander s'il ne s'agit pas de berbères habitués aux montagnes d'Afrique du Nord. Leur zone d'action, vous le voyez sur la carte, est beaucoup plus limitée que celle des Vikings, la France du Sud, l'Italie, les Alpes. Les raids ont commencé au début du IXe siècle. Le premier raid connu a lieu contre Nice en 813, et ces raids ont continué pendant des siècles jusqu'au XIIe siècle. Ils réussissent donc à établir une insécurité chronique dans le bassin occidental de la Méditerranée. Le but fondamental des invasions sarrasines est différent de celui des invasions vikings. Il s'agit de se procurer des esclaves, car l'esclave se vend cher et il y aura dans le monde musulman une clientèle continue jusqu'au XVIIe siècle. On peut distinguer deux phases dans les incursions sarrasines. D'abord, première moitié du IXe siècle, ce sont des raids relativement bénins, celui contre Nice par exemple en 813, celui contre Rome en 846 où il s'empare de Saint-Pierre de Rome. À la suite de ce raid, le pape Léon IV construira une enceinte spéciale, celle de la cité léonine, future cité du Vatican. Deuxième étape, deuxième phase, après 850, il s'agit d'implantation de bases côtières. La plus célèbre est celle de Fraxinetum sur la côte du Var, dans la montagne dite justement des Maures. Elle a été implantée de 891 à 972, soit 80 ans. Et à partir de là, les Alpes sont utilisées comme axe de pénétration. Troisième envahisseur, ce sont les Hongrois. Ils arrivent beaucoup plus tard, puisqu'ils passent les Carpates simplement en 895. Ils s'installent alors en Pannonie, dans la Hongrie actuelle, à laquelle ils donnent évidemment leur nom. On les voit en 911 en Bourgogne, en 917 en Lorraine et en 937 à Orléans, ce qui est leur point d'expansion le plus lointain du côté de l'Occident. Ils affectent des régions beaucoup plus limitées. Il s'agit d'un peuple de cavaliers se déplaçant très rapidement. Et ils ne viennent qu'au moment où l'herbe est abondante, c'est-à-dire au printemps. Ils ne visitent que les régions de plaine en suivant en général les grandes routes qui leur permettront de ramener des charrois de butin. Ils suivent deux axes essentiels. L'un remonte le Danube, aboutit en Alsace, en Lorraine et en Champagne. L'autre traverse les Alpes et aboutit au Frioul, à la plaine du Pô et parfois en Provence et même en Languedoc. Les Hongrois sont pressés. Ils n'ont pas le temps de prendre les villes. Leurs ravages sont donc beaucoup moins importants que ceux occasionnés par les Vikings ou par les Sarrasins. La réaction des populations sera la même que face aux Vikings. Il s'agira d'abord de reconstruire les murs des villes. En fait, cette invasion s'arrêtera brusquement en 955 lorsque les Hongrois auront été battus, une défaite décisive, lors de la bataille du Lechfeld près d'Augsbourg. L'armée chrétienne était menée par le roi de Germanie, Othon Ier. Voilà donc un portrait très rapide de ces trois nouveaux envahisseurs qui donne naissance à une nouvelle période troublée où va se démanteler rapidement l'œuvre des premiers Carolingiens et de Charlemagne. Nous allons avoir un exemple plus précis de l'action des Vikings avec le texte intitulé « Les invasions normandes, le périple des religieux de Noirmoutier ». Nous faisons de ce texte une explication détaillée. Et d'abord, la présentation. Il s'agit d'un texte hagiographique. Les auteurs des Vies de Saints ne se contentent pas de retracer la vie de leur héros, ils le suivent après sa mort. Et ils parlent du sort des reliques et des miracles qu'elles ont produits. Mais également des pérégrinations de ces reliques. Et car, à cette époque troublée, les reliques sont souvent emmenées dans des lieux à l'abri des invasions. C'est le cas en ce qui concerne ce texte. Il s'agit de Saint Philibert, fondateur du monastère de Noirmoutier, dans l'île du même nom. Nous avons donc la vie de Saint et le texte intitulé « Miracle de Saint Philibert » qui fait suite à la Vita proprement dit. Nous connaissons l'auteur de ce texte, il s'agit d'Hermenter, religieux de Noirmoutier. Il raconte les translations, la translation et les miracles du saint. Hermenter a écrit une partie de son œuvre avant 840 et le reste peu après 862. Nous sommes en pleine période des invasions normandes, qui sont particulièrement importantes dans la région de l'estuaire de la Loire, où est situé le monastère de Noirmoutier. Il se trouve donc en première ligne. Ce texte est le récit de l'exode des moines à travers la Gaule et du transfert toujours recommencé des précieuses reliques de Saint Philibert. Je passe maintenant à l'analyse. Ce texte est écrit sans plan précis. Il suit les événements selon leur ordre chronologique, donnant des informations sur les Vikings, appelés ici Normands, sur les moines, sur les reliques. Nous pouvons donc regrouper les informations qu'il nous apporte selon un plan logique. Voici les différentes parties. Premièrement, les ravages des Normands. Deuxièmement, les réactions de la population. Troisièmement, l'odyssée des reliques de Saint Philibert. S'il s'agissait d'un examen, il faudrait bien sûr commencer d'abord par une analyse littérale à faire au brouillon avant d'aboutir à cette analyse selon un plan cohérent que je vous présente directement ici. Première partie donc, les ravages des Normands. La venue des Normands est ressentie comme une punition divine. Ligne 11, un fléau venu du nord. Et ce fléau est comparé avec des invasions connues dans la Bible, et notamment par le prophète Jérémie, qui fait allusion à l'invasion des Babyloniens. Ligne 1, le chiffre des navires augmente. Ligne 21, un nombre incalculable de navires. Il s'agit évidemment d'une exagération, mais il y a bien une grande armée. Les Normands sont donc associés aux bateaux sur lesquels ils pénètrent dans le pays. Les Normands suivent les axes fluviaux. Il y a dans le texte des mentions explicites. Ligne 24, la Seine. Ligne 35, le Rhône. Il y a aussi des mentions implicites. Ligne 76, la Gironde et ses affluents. Ligne 6 et 7, la Loire. C'est un sentiment d'invasion générale. Ligne 26 et toutes les autres cités sont envahies successivement. Dans le texte, nous avons des précisions, plusieurs campagnes sont décrites. Mais les villes indiquées aux lignes 6 et 7 ont été prises par plusieurs bandes normandes à des dates différentes. Faisons un point chronologique. En 843, les pirates vikings s'installent dans l'île de Noirmoutier, évacuée par les moines depuis 836. C'est le premier hivernage hors de la Scandinavie. En 844, les Vikings de Noirmoutier remontent la Garonne. Ils passent par Bordeaux, qui n'est pas pris, et vont jusqu'à Toulouse, ligne 7. en 847, enfin, ils prendront Bordeaux. L'Aquitaine est donc longtemps menacée. En 845, c'est la ligne 22 du texte, les Normands remontent la Seine. Prise de Rouen, ligne 23, de Paris, ligne 24, de Melun, même ligne. Les Normands remontent également les affluents de la Seine, l'Oise et le Terrain jusqu'à Beauvais, ligne 24, la Marne, Meaux, ligne 24, l'Eure et Liton, Évreux, ligne 25, et Chartres, ligne 25. Il y a même le pillage de Bayeux, ligne 25, qui est pourtant loin de la Seine. Nous arrivons à l'année 853, au cours de laquelle il pille une nouvelle fois Nantes et installe une base permanente en Basse-Loire. En 854, ils incendient Angers et prennent Tours et Orléans, ligne 6 et 7. Enfin, ligne 34, les Normands gagnent l'Espagne. Il s'agit de l'expédition de 844. Ils descendent le Rhône jusqu'en Provence et dévastent l'Italie jusqu'en Toscane. Ceci se passe en 859-862. En 857, c'est le déchaînement général, l'expression est dans le texte. Cette année-là, les Normands incendièrent Paris et poussèrent encore une fois jusqu'à Bayeux et Chartres. Quels sont les ravages précis faits par les Normands ? Ligne 3, il est question de massacre, de pillage, de dévastation, d'incendie. Ce qui intéresse surtout les pirates vikings, c'est le butin, donc le pillage est l'aspect essentiel. Mais pour obtenir le butin le plus important possible, il faut impressionner les populations, d'où l'incendie, les dévastations, les massacres. Les vikings, je l'ai dit tout à l'heure, ont un sens aigu de la guerre psychologique. Leur arme principale, c'est la peur. Les Normands, dit le texte, prennent toutes les cités qu'ils traversent, ligne 5. Cela peut étonner, car impuissants devant les murailles, ils ne peuvent pénétrer dans les villes. En fait, la réaction des habitants est conditionnée par l'idée qu'ils se font des vikings. Deuxième partie maintenant, les réactions de la population. Les Normands réussissent parfaitement à terroriser la population, ce qui facilite grandement leur entreprise de pillage. L'impression générale, c'est que personne ne leur résiste. Lignes 5 et 6 du texte. Effectivement, la plupart du temps, aucune résistance ne se produit, ni de la part des autorités, ni de la part des populations. Que se passe-t-il donc quand les Normands arrivent ? Ligne 28, tous les habitants prennent la fuite. La plupart du temps, ensuite, on achètera leur départ. Ligne 31, ils rachètent au prix de tribut. Nous avons de nombreux exemples de cette pratique. En 861, le roi Charles le Chauve achète par exemple le départ des Normands de Basse-Seine contre 6000 livres d'argent. Les Normands gagnent donc sur les deux tableaux, pillage d'abord, puis tribut, ce qui ne les empêche pas de revenir l'année suivante. La capacité de résistance est affaiblie par les luttes internes. Ligne 31, il est question de rivalité réciproque, notamment des fils de Louis le Pieux. Ligne 36, des guerres civiles et étrangères. En 857, par exemple, l'Aquitaine est ravagée par la guerre civile. Pourtant, les rois carolingiens et les populations vont se décider à réagir à partir des années 860. Le symbole de cette réaction est Robert le Fort, comte de Tours en 858, vainqueur des Bretons rebelles, auquel Charles le Chauve confie en 861 un grand commandement pour lutter contre les vikings. Sa mission est de défendre la Neustrie, à la fois d'ailleurs contre les Normands et contre les Bretons. Il va réussir en partie dans cette mission avant d'être tué en 866 à Brissart près du Mans dans un combat contre les Vikings. On construit également des ponts fortifiés, par exemple à Pont de l'Arche, et on reconstruit les murailles des villes. D'ailleurs, l'exemple de Robert Lefort va bientôt être suivi par d'autres. En 864, notamment, les Normands sont repoussés en Flandre. Et en 868, à Poitiers, à chaque fois, par des troupes locales. À cette époque, la population n'hésite plus à participer à la résistance. Le cas le plus célèbre, en 885-886, c'est le fameux siège de Paris, qui réside sous la direction du comte Eudes, fils de Robert le Fort. Et en 887, l'empereur Charles le Gros, dernier empereur carolingien, est déposé pour avoir acheté le départ des Normands au lieu de les combattre. En 888, c'est justement Eudes qui est élu à sa place comme roi des Francs. Bien entendu, les monastères sont les principales cibles, car les plus riches. Aussi, les moines sont-ils les premiers à fuir. Mais ils emmènent avec eux leurs reliques. Beaucoup de cendres de saints sont enlevées, nous dit le texte à la ligne 8. Ce fut le cas des moines de Noirmoutier avec les reliques de Saint-Philibert. Et j'en arrive à ma troisième partie intitulée « L'Odyssée des reliques de Saint-Philibert ». Le monastère de Noirmoutier était parmi les plus exposés des monastères francs dans l'estuaire de la Loire. Dès 836, les moines s'étaient enfuis du monastère avec les reliques de Saint-Philibert. Première étape, mentionnée dans le texte, Déas, qui est aujourd'hui Saint-Philibert de Grandlieu, en Loire-Atlantique. Mais cette première étape est encore trop exposée. D'autant plus qu'en 843, les Normands se sont installés à Noirmoutier. Ils vont incendier Déas, ligne 17 du texte. Les moines s'enfuient donc à Cuneau, en Anjou, sur les bords de la Loire, car Charles le Chauve leur avait donné cette terre comme refuge. Mais il s'agit d'une installation mouvementée. Les moines ont dû fuir rapidement Déas en 844, puisqu'ils ont dû y laisser leur saint. Or, les gens de Déas refusent de se laisser dépouiller du saint et de sa protection. Lignes 18 et 20 du texte. Les moines fuient dans des lieux divers au gré des événements. Ligne 39. Mais Saint-Philibert est toujours resté à Déas. Il n'y a pas pour lui d'asile sûr. Ligne 40-44. Cependant, la deuxième étape, c'est Cuneau, sur les bords de la Loire. Finalement, ils vont rechercher leur saint, arraché en secret aux Normands, et l'installent à Cuneau. L'auteur exagère certainement, mais il montre bien les conditions particulières de l'époque. Normalement, le transfert des reliques était une translation solennelle avec chant et grande foule, ligne 48. En fait, ici, il s'agit d'un transfert en secret. Cette nouvelle translation est considérée comme provisoire et effectivement, en 854, les Normands remontent la Loire. Il y a donc un nouveau transfert prévu dès que les circonstances l'exigeraient. Ligne 49. Voyons maintenant la troisième étape. En 862, le saint arrive à Messé, dans le canton de Moncontour, dans la Vienne. C'est encore un domaine de l'abbaye de Noirmoutier, ligne 52. L'auteur s'arrête en 862 car le texte est écrit à cette époque. Mais, ligne 56, les païens poursuivent leur persécution. L'Odyssée de Saint-Philibert n'est donc pas terminée. Elle s'achèvera seulement en 875 à Tournus, en Bourgogne. Et peu de temps après, ce n'était pas prévu, les Hongrois, autres envahisseurs, arriveront dans cette région. Pourtant, les moines de Noirmoutier n'iront pas plus loin et construiront un grand monastère et la belle église de Tournus, encore debout, pour abriter Saint-Philibert. Ce voyage du saint fut marqué par des miracles, évoqués ligne 53. Ces miracles sont d'ailleurs l'objet principal du livre. La protection du saint est d'un grand secours contre les envahisseurs dans l'esprit des gens du temps. Cette histoire de Saint Philibert n'est pas isolée. De nombreuses reliques ont sillonné les routes à cette époque. Et par exemple, les reliques du premier évêque de Bayeux, Saint Exupère, sont allées se réfugier à Corbeil, où elles ont donné naissance à l'église Saint-Spire, des formations de Saint-Exupère. Je conclue maintenant. Ce texte est très intéressant par les nombreuses précisions sur les invasions scandinaves en Francie occidentale. Pourtant, les aspects les plus révélateurs concernent la réaction des populations, fuite et tribut versés aux envahisseurs. Il nous renseigne aussi sur la mentalité des gens du IXe siècle. On considère les Normands comme un fléau de Dieu, ligne 10, contre lequel on ne peut rien. Le seul recours, c'est la protection des saints. Les reliques, c'est-à-dire les ossements du saint, deviennent les objets les mieux protégés, car on espère des miracles. Cependant, ce texte est écrit par un moine. Il faut évidemment le considérer avec un certain recul. Les monastères, nous le savons, sont les victimes de choix des Normands à cause de leur grande richesse non défendue, car les moines ne peuvent pas utiliser les armes, selon l'adage célèbre « Ecclesia aboret a sanguine », l'Église a horreur du sang. Ermentaire exagère bien entendu le nombre des Normands. Il ne fait aucune mention des tentatives de résistance. Il est vrai, bien peu nombreuses encore avant 862. Les conséquences de ces invasions vont être décisives pour l'Occident chrétien. Je donne quelques exemples. D'abord, l'effondrement de la dynastie carolingienne, incapable de défendre les royaumes issus de l'Empire carolingien, surtout contre les Normands. La couronne est d'ailleurs cédée aux défenseurs, exemple Eudes, comte de Paris. Deuxième conséquence, renforcement de la vassalité, établissement du système féodal nécessité par l'insécurité de cette période. Enfin, troisième conséquence importante pour nous, l'installation des Normands dans cette région, dans notre région, la future Normandie, officialisée en 911 par le traité de Saint-Clair-sur-Epte entre Charles le Simple, roi de Francie occidentale, et le chef danois Rolf, autrement dit Roland. Cette installation est à l'origine de nouvelles puissances et surtout le royaume anglo-normand.